La première remarque, elle est simple, c'est qu'en 2050, 70% des bâtiments, c'est les bâtiments qui existent aujourd'hui. Donc les discours sur le volontarisme sont sympathiques, mais ils n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Il faut faire avec la ville telle qu'on l'a aujourd'hui. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir d'abord. Et je vais vous montrer juste quelques images, hein, et après je m'arrêterai, sur les formes urbaines. Donc ceci, c'est la forme urbaine idéale que l'économie française a trouvée dans les années 50 pour faire venir des gens pour fabriquer des bagnoles. Alors, en termes de création de valeur, pour parler comme les gens du business, c'est aujourd'hui le siège de la Société Générale, une banque au hasard. Et en termes de création de valeur, ça a été exproprié à l'époque pour quelques centimes d'euros, car c'était des propriétés privées. Donc voilà une des formes urbaines idéales. En voilà une deuxième, j'ai pas le bilan carbone, c'est dans le New Jersey, un lotissement post-moderne. J'en ai une troisième, et ça j'y reviendrai parce que c'est un point central. C'est ça l'urbanisme français aujourd'hui, c'est de faire construire sa maison. C'est donc d'aller acheter un terrain, pas cher, loin des transports en commun, et de faire construire une maison de moins de 170 mètres carrés. Il faut savoir que c'est massivement ce qui se développe, ce qui se développait hier, ce qui se développe encore plus aujourd'hui. Donc ma réflexion, ce sera un peu, est-ce qu'on a les outils pour infléchir cette tendance qui est calamiteuse à beaucoup d'égards, sur les modes de vie, sur la psychologie des familles, sur la façon de faire société, et bien sûr sur le bilan carbone, etc. Alors vous avez un cas passionnant, ça c'est Shanghai, c'est comment s'est produit la ville de Shanghai. Alors je vous en parlerai pendant des heures, mais ce qui est impressionnant, c'est le dualisme et la façon dont à la fois on a verticalisé. Et pourquoi est-ce qu'on a verticalisé? C'est parce que les villes vendent le droit de construire. Et donc c'est pour faire du fric, parce que les villes chinoises n'ont pas d'autres ressources que la vente des droits de construire. Et pendant le même temps, on préserve l'habitat populaire, comme vous voyez là, au milieu des tours, où c'est des gens qui gagnent 300 renminbi par mois, donc des tout petits salaires. Et donc les deux coexistent à l'intérieur. Et la logique qu'il y a derrière, pardonnez-moi, je suis un peu économiste, donc j'accentuerai un peu les facteurs économiques, c'est pour enrichir les villes chinoises, pour que les villes chinoises vivent. Bon, et en voilà une autre. Alors là, j'étais à Tokyo à la début des années 90, quand les terrains valaient jusqu'à 100 000 dollars le mètre carré, 100 000 dollars le mètre carré.
C'était à Tokyo en montgolfière, là.
Et la logique économique à l'époque, c'était parce que le terrain est très cher, il faut verticaliser pour amortir le terrain. Et la question à 100 balles, compte tenu des loyers bureaux de l'époque et compte tenu des prix de terrain, il eût fallu à peu près un siècle et demi pour amortir cet immeuble de 1,5 km, 1,8 km de hauteur. Les calculs, ce que je veux dire, et on le vit en ce moment encore plus fort, et on le vivra encore plus fort au moment de la bulle carbone en 2015-2016, c'est une espèce de dictature de l'économisme sur les formes urbaines. Et je pourrais vous en raconter des... Et donc voilà maintenant les projets qui fleurissent. Celui-ci, qui a une belle esthétique, est à Dubaï. Je ne sais pas s'il est maintenu ou s'il n'est pas maintenu. Et le paradoxe dans l'action publique, c'est que voilà les formes de logement. J'avais proposé à Madame Dutin une slide qui s'appelait « La maison à 1 euro pendant 2 mois ». C'est la tente Quechua. Alors, je ne poursuis pas là-dessus, mais je voudrais deux choses. J'ai travaillé dans pas mal de pays. Donc, d'une part, je voudrais vous dire deux ou trois choses qui se retrouvent dans de nombreux pays, aussi bien en Amérique latine, en Asie de l'Est, ou dans plusieurs pays européens, et d'autre part, un certain nombre de caractères spécifiquement français. Alors, pour commencer par un caractère fondamental dans le cas français, et pardonnez-moi s'il y en a que je choque, c'est, je me souviens d'une phrase de Gaston Defer au moment de la loi de 82 sur la décentralisation. Et un député lui a dit, mais enfin, monsieur Defer, est-ce que vous pouvez, il était ministre de la décentralisation, est-ce que vous pouvez nous décrire l'architecture des pouvoirs que vous voulez mettre en face? temps mettre en place et combien de temps ça va prendre. Et de faire avec sa voix, je ne vais pas essayer de l'imiter, mais a répondu, arrêtez de m'emmerder, je donne un coup de pied dans la fourmilière, je n'ai aucune idée de l'architecture future des pouvoirs, ça va prendre 20 ans, il y avait plein de mots grossiers que je vais dispenser de vous répéter, et il disait, il faudra au moins 20 ans pour y voir clair. Ce qui est évident, c'est que ce n'est pas 20 ans, c'est 30 ou 40. Et le modèle antérieur, qui était un modèle top-down, je dis volontiers que le système français, c'était un communisme moderne et intelligent à la libération. C'est-à-dire qu'on avait une planification top-down, et pardonnez-moi s'il y a des gens de l'équipement, mais ils ont fait un travail remarquable, mais un travail où l'État produisait la loi, faisait les plans et délivrait les permis. Et de façon... pendant longtemps, c'est adéquat. On a très bien reconstruit la France. Et puis après, ça a atteint ses limites parce que l'État n'est ni architecte, ni urbaniste. Enfin, il y a eu une vraie difficulté. Et aujourd'hui, on la mesure pleinement. Alors, c'est substitué à ça, et c'est là que je repense toujours à la phrase de Defferre, un système extraordinairement différencié suivant les morceaux de territoire. Alors, quand je suis à l'étranger et qu'on parle d'une ville française, c'est immanquable, il n'y en a que quatre. Il y a Lyon, il y a Rennes, il y a Nantes, il y a Grenoble. Quelques autres, parfois.
Marseille, non ?
Oh, bon, Marseille, on peut l'aimer pour beaucoup de raisons. Mais les quatre que je cite sont les quatre qui sont prêtes à présenter. Et donc, il y a une espèce de changement radical. Et l'abus du mot partenariat public-privé, et puis moi, j'y ajoute volontiers partenariat privé-privé et partenariat public-public, car ce ne sont pas les plus faciles. C'est une espèce où on redécouvre l'eau chaude, parce que ça existe. Il y a un livre remarquable qui s'appelle 2000 ans de partenariat public-privé. En France, en Angleterre, aux États-Unis et tout. C'est une chose extrêmement ancienne, mais la fin du système antérieur, pyramidal, top-down, rend nécessaire de redécouvrir l'eau chaude. Et donc, on est mais ce que je dis, c'est sans dérision, mais on est en train de redécouvrir l'eau chaude, c'est-à-dire des systèmes de mode de partenariat qui était largement tombé dans l'eau. Bien, alors, quelques éléments de réponse à la question, les politiques locales ont-elles les moyens de maîtriser les formes urbaines ? Alors, un mot sur la question énergétique, parce que c'est quand même la porte d'entrée. Il y a une certaine amnésie. Je rappelle que la crise pétrolière, c'était 74 puis 79, que l'ADEME a été créé il y a 30 ans, je crois, et que l'obsession, à l'époque, c'était le bâtiment économe en énergie. Le CSTB s'y est mis prioritairement. Enfin, ça a été vraiment priorité pendant très longtemps. Alors, elle le redevient, pour des raisons évidentes, mais on peut se souvenir, par contre, on a parlé du bâtiment, beaucoup du bâtiment, et on parle peu de l'urbanisme. Alors, un problème, pardonnez-moi, j'enfonce une porte ouverte sur les politiques locales ont-elles les moyens. La chose qui me frappe le plus, et là c'est une différence entre la France et les plusieurs pays voisins, c'est la structure institutionnelle, le millefeuille, etc. Je ne détaille pas, j'étais encore il y a quelques semaines à Toulouse pour discuter des perspectives urbanistiques globales, et très rapidement, on s'est mis à parler de la conférence Interscot, parce que le grand enjeu, c'est qu'il y a des intercos un peu conflictuels, et c'est de faire des conférences Interscot. La difficulté institutionnelle est vraiment considérable, et elle se combine avec le fait que la profession d'urbaniste, je dirais, existe peu en France. On n'a pas du tout l'équivalent. En Angleterre, par exemple, dans une ville ou dans un bourg, le patron de l'urbanisme, c'est le chief planner. Le maire est là, il fait l'état civil, il coupe des rubans, ce n'est pas négligeable. Mais le patron de la ville, c'est le chief planner, et c'est toujours, toujours au niveau de l'agglomération, ou au niveau des grandes communautés de communes. Il y a 330 collectivités locales, à peu près, en Grande-Bretagne. Alors le débat, on va avoir un printemps législatif tumultueux, mais fort intéressant sur cette question-là. Et moi, je crois que sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, une question clé, c'est qui est le patron de l'urbanisme. Et l'exception française, alors vous allez peut-être me reprocher ce que je vais vous dire, mais une exception française, c'est le pouvoir incroyable du maire de la commune qui fait son PMU et qui délivre le permis de construire. Alors je sais que c'est un propos hétérodoxe, mais je le dis quand même, et en tout cas c'est une exception française. Alors j'en viens à énergie climat. Je n'ai malheureusement pas entendu ce qui se disait du plan climat, mais mon expérience, c'est le risque majeur, d'ailleurs Laponche l'évoquait un petit peu, c'est le dualisme. Entre d'un côté les mécanismes réels de décision sur la fabrication de la ville, c'est-à-dire le PLU va nous construire, et puis ailleurs, on crée un département qui s'appelle le département énergie-climat, qui fait un plan climat, et on n'intègre pas les deux. Je pense vraiment qu'il y a une priorité. Je ne sais pas ce qui va sortir du Grenelle 2. Je ne sais pas si vous avez vu en détail la loi Grenelle 2, elle est très compliquée. Mais une des clés serait, et c'est écrit dedans, d'intégrer le PLU, pardonnez-moi si vous voulez quelques acronymes, le PLU, le PLH, le PDU, que tout ça soit, que le SCOT surplombe tout ça pour l'harmoniser, et que le plan climat soit intégré dans cet ensemble. À l'évidence, ceci ne peut prendre sens qu'au niveau d'une agglomération, sans s'arrêter au périphérique pour prendre le cas parisien.
Le plan climat dans le SCOT.
Dans le PLU. Dans le SCOT au départ, et puis décliné dans le PLU. Ensuite. Mais ça passe par un certain nombre de préalables, mais ça me paraîtrait une direction intéressante. Un bon exemple pour ceux que ça intéresse, c'est le plan climat de Londres. Parce que Londres a donc une administration du Grand Londres, et le plan climat fait au niveau du Grand Londres est décliné dans tous les boroughs, c'est un des bons cas. Alors, un mot très bref sur la panoplie des outils. Les outils, on en a beaucoup. En termes fonciers, il en manque un qui malheureusement correspond à la tradition française de respect religieux de la propriété, c'est le remembrement urbain, car nous n'avons pas de remembrement urbain. Et l'urbanisation, au-delà de la dictature de l'économie, c'est la dictature du parcellaire, c'est-à-dire qu'on urbanise là où un terrain vient sur le marché. Le marché foncier, c'est un urbanisme de croque-mort, de syndic de faillite et d'avocat du divorce. Le terrain ne vient sur le marché, et tous les opérateurs savent ça. Un terrain ne vient sur le marché que lorsqu'il y a un événement extérieur, les événements que j'ai cités étant les principaux. Donc n'importe quel aménageur, lotisseur et tout, son réseau, c'est celui que je vous dis. Ce sont les notaires, syndic de faillite, etc. L'expropriation, c'est peanuts. On n'utilise plus aujourd'hui l'expropriation qui est pour faire des autoroutes, des voies ferrées. On ne l'utilise pratiquement plus pour l'urbanisme normal.
Henri, vas-y.
Ah, allez-y. Je suis prêt à écouter, mais enfin, pas beaucoup.
On a vraiment énormément d'opérations d'aménagement dans Bayonne, dans Pau, sur les zones commerciales, les zones d'habitat, etc.
Comment elle s'appelle ta SEM PO Non, PA.
C'est la société d'équipement des Pays de la Dour. Donc aujourd'hui, je dois avoir...
Vous expropriez beaucoup.
Je dois avoir une dizaine de dossiers d'expropriation d'opérations, pas de terrain, qui s'intéressent par
non, je parle de terrain, d'expropriation.
Vous expropriez beaucoup. Des centaines de parcelles d'expropriation aujourd'hui. Oui.
Centaines de parcelles en expo. Et c'est une observation générale que vous regroupez.
Moi, je suis président de la SEM d'aménagement de l'agglomération de l'Histoire. Et donc, toutes les grandes opérations d'urbanisme sur l'agglomération se font généralement par ZAC. Et donc, à chaque fois, il y a des...
Vous sortez encore beaucoup de ZAC en ce moment.
Il y a des
bien sûr, oui.
Mais le problème n'est pas là, comme vous l'avez rappelé. C'est pas l'extension urbaine, le problème. C'est la rénovation du bâtiment.
À l'intérieur. Mais enfin, j'écoute quand même que l'expro, vous l'utilisez beaucoup. Et vous êtes content des évaluations domaines et des révélations du
ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et depuis 2-3 ans, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la grosse bagarre parce que les gens ont l'impression que les fonciers valent 4 fois le prix de ceux qui ont évalué. Donc ça, c'est un problème. Donc on est souvent devant des procédures contentieuses. Enfin, GESPRO, appel, etc. Bien sûr.
D'accord.
Donc c'est très long. Et la question d'avoir une politique foncière au niveau des collectivités, c'est... la question numéro 1, à mon avis, si on veut commencer à avoir une politique de l'habitat, qui est la réponse.
Frédéric, bon, ta Brest,
tu le dirais qu'en
vie et au bosse, on peut de la violence.
Oui, j'entends bien. Non, alors là, si vous voulez, on pourra en discuter, c'est le problème des EPF. parce que je vais plusieurs fois à des endroits où on parlait de créer un EPF, et en fait, c'est des situations politiques locales où il y a des gentils conflits qui effleuraient des mouchetés entre une SEM, la ville principale, le côté d'agglo, etc. J'étais à Nantes il n'y a pas longtemps, qui a dit qu'avant de créer l'EPF, il y a toujours le mirage de la taxe, parce qu'on crée un EPF parce qu'il y a la taxe qui va tomber, savoir qui va gérer et pourquoi. Donc là-dessus, j'ai un point de vue simple, créer un EPF, oui, si c'est au service d'un projet avec un vrai patron et qu'on sait sur quel territoire on intervient. Créer un EPF sans savoir exactement ce qu'il va faire, c'est la pire des choses. Et là, je pourrais vous en raconter des tonnes sur la façon dont le patron de l'EPF devient finalement, fait la planification, la déforme, la biaise, etc. Bon, là, il y a un pouvoir foncier qui est dangereux quand la taxe n'est pas plus impactée. Bien, un mot sur une difficulté, et qui n'est pas spécifiquement française, mais qui est spécialement forte en France, c'est les finances locales. En particulier la fiscalité locale, les quatre vieilles, on en parle tellement que ce n'est pas la peine que je m'étende là-dessus. La source du blocage numéro un, ça s'appelle. Il y a des fonctionnaires des finances parmi vous ?
Non, vous allez-y.
Je masquerai après.
Ce sont les conservations des hypothèques. Puisque toute l'information sur les marchés fonciers et immobiliers, qui est plutôt de bonne qualité, le notariat est une profession honnête et compétente, et tout ça est enregistré dans les conservations des hypothèques. Mais ça n'est pas informatisé, partiellement seulement. Et donc il y a une espèce de règne du secret, alors que ça s'appelle théoriquement la publicité foncière. Donc il y a une espèce de blocage qui interdit la réévaluation, et ce qui va mettre la France hors des clous par rapport à la législation européenne, car vos impôts locaux, comme les miens, sont assis sur des valeurs qui datent de 1960 pour les terrains et de 1970 pour le bâti. Donc on est complètement en dehors des clous. En 91, une réévaluation a été faite. Les écarts étaient tellement importants que quatre gouvernements successifs de plusieurs coloris politiques se sont mis d'accord pour ne pas y toucher. Donc elle a une difficulté absolument majeure. Je ne veux pas vous proposer un programme politique, mais il suffirait de supprimer le foncier bâti, le foncier non bâti, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, l'impôt sur la fortune, plus une demi-douzaine d'autres, et de les remplacer tous par un impôt annuel sur la propriété foncière et immobilière à sa valeur vénale. Un taux de 0,3-0,4% suffirait pour remplacer tous les impôts que je vous ai dit. Donc il y a cette modernisation. Le président de la République actuelle, pendant sa campagne, a dit qu'il allait le faire. Procède maintenant avec une sage lenteur. Madame Lagarde n'est pas prête d'y toucher. Il y a là une chose essentielle, parce qu'elle permettrait, en aménagement du territoire, d'inciter à l'usage des terrains que l'on souhaite. Aujourd'hui, le bien le moins taxé, c'est un beau terrain en centre-ville qui n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de construire. Ça ne paye rien parce que c'est classé comme friche. Ça coûte moins que de la terre à blé. Donc ça, on ne le dit pas, et c'est pour ça que l'urbanisme va aller ailleurs, parce que ce terrain va être stocké. Il faudrait être masochiste pour ne pas garder un terrain quand on a une perspective longue. C'est de la gestion en bon père de famille, rien d'autre. Donc il y a là une vraie difficulté. Bien, alors un mot pour terminer, enfin un mot, quelques mots quand même, sur les formes urbaines, la densité, la ville compacte. Quand j'étais au Japon, il y avait un projet d'un immeuble de 1 km sur 1 km sur 1 km. C'était évidemment optimal. Il y en a un autre qui ressemblait au mont Fuji, Fujiyama, de 4000 mètres de haut. Enfin, ils ont pensé à tout ça. Alors non seulement on n'ira pas, mais sur le plan de la connaissance, on ne sait pas grand-chose, on ne nous dit pas tout sur le coup des formes urbaines. Alors j'ai trouvé un article, je l'ai montré tout à l'heure à Mme Monod, sur les tours. Les tours ne sont jamais écologiquement bonnes. La défense énergétique, on ne descend pas. Quand on fait du plus de 12-15 étages, on ne descendra jamais en dessous de 200 à 250 kWh par mètre carré par an. C'est-à-dire qu'on est très loin du BBC. Pour des raisons que tout le monde connaît, hein. C'est battu par les vents. Enfin, moi, découvrir des panneaux solaires sur les quatre faces, des éoliennes en haut, mais même les éoliennes sur un immeuble haut, ça n'a absolument aucun sens. Donc retenez ça, on n'ira jamais à BBC, bâtiment basse consommation, si on dépasse du bout d'un 15 000 bons. Alors les discours sur les tours, je partage entièrement ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est indéfendable. Et difficulté de la mesure, c'est qu'on sait relativement peu de choses. J'ai vraiment regardé, discuté avec les gens du SSTB et dans d'autres pays, on ne sait pas grand-chose sur le coût énergétique des formes urbaines, notamment entre le lotissement, le haussmannien, etc., etc. Ce serait le guide numéro un pour choisir la forme urbaine optimale en termes d'énergie. Eh bien, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Alors là, je vais sur deux autres points qui sont particulièrement importants. La densification, personne n'en veut. Il faut discuter avec les maires n'en veulent pas, les électeurs n'en veulent pas. Pour un ensemble de raisons que je ne vais pas... le maire, il est élu par ses électeurs en général. Et pour des raisons... c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus en faire un truc seulement conjoncturel et dire seulement c'est la faute des grands ensembles, c'est parce qu'on a fait ces certains grands ensembles qu'aujourd'hui, c'est pas vrai, c'est une chose ancienne qu'on retrouve partout. La question, c'est l'organisation du périurbain. Or, je voudrais insister sur un point aussi, et ça c'est une question de développement durable et des équilibres sociaux et de la cohésion sociale, c'est que aujourd'hui, la périurbanisation, il y a la périurbanisation des riches, y compris les gated communities, enfin les ensembles pour gens à ressources élevées. Et plus grave, il y a l'étalement urbain des pauvres, des ménages à très faibles ressources, qui ont compris que la file d'attente HLM, ils en avaient pour 3 à 5 ans au moins. Quel est le logement très bon marché? C'est d'aller acheter un terrain loin des transports en commun, loin de la ville, et on peut trouver un assez grand terrain pour 10 000 euros. Et on pose dessus une maison à, on en trouve maintenant, 70 mètres carrés, on en trouve à 80 000 euros. Mettons 100 000 au total, et on va voir sa banque, et on en prend pour 20 ans. Et 100 000 euros, on prend le smicard s'il a un vrai salaire. Et bien là, on est en train de produire une bombe à retardement qui, ce n'est pas la taxe carbone le problème, mais le pétrole à 200 dollars fera de ces maisons qui seront par ailleurs des poubelles thermiques, la voiture, le coût de la voiture, vont faire un véritable traquenard. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une inflexion extrêmement urgente à faire. La périurbanisation, elle continuera à avoir lieu. Organisons-la, repensons-la, et que les PLU soient vraiment des guides de l'action en résolvant le problème foncier. Et arrêtons immédiatement cette solution pour les ménages à très faibles ressources, qui aujourd'hui sont financés sans problème par les banquiers. Il y a là une très grosse difficulté. J'allais dire, ce sont nos gros ensembles de demain, et où il n'y aura pas l'aspect de cohésion sociale du grand ensemble, qui est ce qu'elle est, mais au moins les gens sont ensemble. Parce que là, c'est vraiment la maison éparpillée, comme celle que je vous montrais. Voilà, et dernier point, je conclue sur un des facteurs économiques qui fait que l'on ne construit pas ce qu'il faut où il faut. C'est le périsol, le Robien, Besson modernisé, Borloo-Pop et maintenant le Cellier.
La défiscalisation pour les profanes.
C'est la défiscalisation. Donc vous pouvez... Pardon. Et donc vous pouvez aujourd'hui économiser 75 000 euros d'impôts, encore faut-il payer 75 000 euros d'impôts, en achetant un Cellier. Et l'ensemble de sa disposition de défiscalisation...
Le Cellier, ce n'est pas une pièce au fond de la maison.
Monsieur Cellier, le plus célèbre comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on a supprimé un de ses avantages fiscaux, quand Besson, par exemple, le ministre du Logement, l'a rendu plus social, ça s'est effondré. Et immédiatement, les pressions étaient extrêmement fortes pour remonter au niveau d'avant. Et à chaque fois, il faut monter le niveau un peu plus... Et on construit de plus en plus pas là où il faut, c'est les sinistrés du périsol, on ne va pas verser une larme sur eux, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un problème d'ajustement au niveau loyer et tout. Je ne m'étends pas là-dessus, Mais il y a un vrai problème de la défiscalisation, où la peur de tout gouvernement est qu'en abandonnant un système de cette nature, il faut savoir que la défiscalisation, actuellement, c'est plus de la moitié de la construction du promoteur. Plus de la moitié en ce moment. Donc on est dans un système, j'ai peut-être un peu noirci le tableau, mais où il y a un certain nombre d'éléments économiques qui biaisent la production du cadre de bâti et d'une façon qui n'a aucune chance de prendre en compte l'objectif énergétique. C'est pour ça que l'intégration plan climat et planification urbaine en général me paraît tout à fait importante.
Tu y vas ou j'y vais?
Pour une question?
Oui.
Non, moi, non, dans la salle, il n'y a pas encore, mais moi, j'ai une question, en fait, par rapport à l'exposé. C'est finalement sur ces déterminants économiques, finalement, qui fabriquent la ville étalée, fragmentée, etc., et donc, finalement, consommatrice d'énergie. La plupart des déterminants économiques que vous avez évoqués, c'est des déterminants d'économie publique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils sont construits par la décision publique. Vous avez parlé de la fiscalité locale, qui est, disons, qui pousse à l'étalement urbain, des dispositifs de défiscalisation du logement, etc. On a l'impression que c'est plutôt... C'est la régulation publique du marché qui crée... Enfin, à vous écouter, hein, peut-être, ce qu'on pourrait retenir, que c'est la régulation publique du marché foncier immobilier qui dérègle tout et qui pousse, finalement, une ville non souhaitable, plutôt que le marché en tant que tel. Enfin, comment vous pourriez articuler ça? Enfin, comment vous le...
Bon, d'abord, ce qui est limité par le fait que les ménages à faible revenu vont là où ils peuvent. Il y a des gens qui choisissent leur lieu de résidence, il y a des gens qui vont là où ils peuvent. Et quand je dis qu'il y a une vraie pathologie, c'est le ménage à faible ressource qui n'a pas accès au système HLM et qui va se faire construire sa maison loin. Donc là, c'est une pathologie qui est l'ordre de la microéconomie des ressources de l'homme. Sur le reste, tu as fait raison, c'est des choses de politique publique qui ne sont pas harmonisées. Dans ma déjà trop longue carrière, j'ai été plusieurs fois dans les groupes de travail conjoints, ministère de l'urbanisme, enfin ministère de l'équipement, ministère des finances. Et la discussion vient très vite sur le ministère de l'équipement, un projet d'urbanisme, planification et tout, et le ministère des finances, pas d'accord. Il fait une note en bas de page sur la fiscalité, par exemple, c'est typique. Le ministère des finances a horreur de la fiscalité de l'urbanisme. Ils disent votre impôt incitatif, leur expression c'est un impôt qui va manger son assiette. C'est-à-dire l'impôt incitatif, s'il marche bien, il ne le rapportera plus. C'est un grand problème pour les impôts écologiques. La taxe carbone, si elle marche bien, c'est un impôt qui mangera son assiette. C'est pas au niveau actuel qu'elle va manger quoi que ce soit, mais si elle monte beaucoup... Donc il y a les conflits dans l'administration, hein, sur le plan politico-administratif, le conflit entre les finances et l'équipement... contribue depuis assez longtemps à ça. Il y a une réforme qui était très intéressante, une réforme clé de l'urbanisme en France, en 1967. Loi préparée par Pisani, votée par Ortoli, appliquée par Chalandon. Et elle contenait une disposition clé qui disait les terrains seront imposés à leur valeur vénale. Notamment un terrain à bâtir qui vaut 1000, eh bien son impôt sera assis sur la valeur de 1000. Eh bien ça n'a pas raté, c'était une intention... Et même Chalandon, qui était un libéral dans l'âme, on a préparé un projet très précis, très complet, j'ai encore une carton, de fiscalité foncière moderne. Et bien la même année, l'inspection générale des finances a sorti une petite note, qui s'appelle « Note sur la fiscalité foncière », en disant « Oui, ce serait peut-être une bonne idée, c'est un peu théorique, et puis que voulez-vous, la propriété foncière en France, c'est une chose trop importante pour le ciment social, etc. etc. » Ça, dans le...
Je me souviens bien que même que Chalandon disait à une époque qu'il fallait aller vers une nationalisation discrète des sols.
Collectiviser.
Oui, il a dit un jour pour collectiviser les sols sans.
Chalandon disait ça.
Collectiviser sans le dire.
Il y avait Chalandon 1, Chalandon 2. C'était un libéral dans l'âme. Et quand il est arrivé, il a fait voter une loi de déréglementation généralisée. Disant les postes ne pourront pas interdire si on a 1000 mètres carrés, qu'on a l'eau et la route. Bon, finalement, ça a fait des désastres dans nos campagnes. Donc, il est revenu là-dessus. Et c'est là qu'il a dit qu'il faut collectiviser les sols sans le dire. Et qu'il a préparé son projet d'impôt foncier.
Bon. Oui. Alors, inscrivez-vous. Oui. Christina. Oui. Alain. Attends, Christina. Non, non, j'ai dit Christina, c'est Christina.
Ouais. C'est très vrai.
Alors, tu dis parce que
oui.
Il ne connaît pas. Donc,
Je suis à l'Assemblée nationale, à la Commission de développement durable, j'ai beaucoup travaillé sur le Grenelle, etc. Mm-hmm. Je voulais juste apporter une petite nuance. Je ne sais pas si vous avez rencontré des entreprises françaises dont je peux vous donner l'adresse, etc. Mm-hmm. Notamment une adresse qui s'appelle Eonovia, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont justement sur ces créneaux-là, c'est-à-dire les maisons individuelles, dont vous dites, pour les ménages à faible revenu qui vont se faire construire dans la maison loin, d'où tous les problèmes, etc. Mais qui sont quand même capables aujourd'hui de faire des maisons à 120, 130 000 euros, à 50 kWh le mètre carré. Donc ce n'est pas du tout des perçoirs énergétiques. C'est possible,
oui,
ça se fait.
J'ai vu l'annonce.
Mais il ne faut pas voir l'annonce. Il faut rencontrer les gars.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que vous avez
dit.
Et c'est quand même un début de réponse. L'autre début de réponse, c'est.
Mais c'est la localisation aussi du bien.
Attends, vous ne répondez pas tout de suite.
Non, je parle de.
Bon, discipline.
L'autre début de réponse, c'est sur le Grenelle 2. Bon, on va voir comment l'intégrer. Mais c'est justement un amendement sur la réévaluation du foncier non bâti en ville. Vous dites, dont on intégrerait justement la valeur qui proviendrait du fait que comme il y a des transports en commun, etc., justement le foncier devrait intégrer cette valeur-là, donc va être réévalué au point de vue du foncier. Donc c'est aussi un début de réponse qu'on pourrait être vous souligner.
Je ne réponds pas tout de suite. Alain, qui d'autre?
Oui, bonjour, André Fontaine. Je suis directeur adjoint de l'aménagement du territoire en Basse-Normandie, à la région Basse-Normandie. Et en fait, ma question, c'est dommage que notre collègue Pierre Van Kandeval, qui est le directeur de cabinet du député maire de Caen, ne soit pas là, parce que la
c'est
question le intéresse en même temps. Il travaille en ce moment sur le projet de SCOT de Caen Métropole, qui est donc l'aire urbaine de Caen, qui fait 330 000 habitants. C'est un syndicaliste de SCOT composé non seulement évidemment des élus de la commune, mais surtout des communautés de communes qui font partie de l'aire urbaine. Le PLD, ambitieux, on va essayer d'accueillir 70 000 habitants pour savoir leur construire 50 000 logements, où est-ce qu'on va les mettre. Alors évidemment, ils font un bon climat et ils sont censés être SCOT Grenelle, donc il faut qu'ils soient exemplaires. Alors ils ont commencé à dire, bon, ce qui serait bien, c'est que nos 50 000 logements, on les mette sur l'aglo, et puis sur 3 ou 4 pôles. On est en plein schéma polarisation. Et puis, on va massifier et densifier les transports, créer des nouvelles lignes de transport collectif, massifier le transport collectif, et donc créer une vraie polarisation du territoire qui va permettre d'atteindre les 20% d'économie de gaz à effet de serre, qui sont aujourd'hui peut-être les 20% consacrés justement aux déplacements dans le bilan carbone. Donc, pour 70 000 habitants, comment on va faire pour descendre de 20% des gaz à effet de serre? Le problème, c'est ce que me disait Philippe Duron, qui est le député maire et président du syndicalisme, il a toutes les cartes en main, il est président de la mairie, de l'aglo et du syndicalisme qui porte le SCOT du pays. Il me dit, mais sur le fond, on est d'accord, mais la difficulté, c'est comment je vais valider par mon comité syndical, dans lequel j'ai tous les présidents des communautés de communes, qu'il va falloir qu'ils expliquent à tous les maires ruraux de leur communauté de communes qu'en gros, le schéma, c'est qu'ils arrêtent de construire, qu'on arrête de développer les communes rurales. C'est terminé. Et il me dit, mais politiquement, je ne peux pas, personne ne va accepter ça. Si je suis président de la communauté de communes, c'est parce qu'il y a un consensus entre les maires locaux pour que la communauté de communes se développe et que chaque commune se développe un peu. Chacun dit, moi j'ai besoin d'habitants pour le maintien ou le développement de quelques services. Et le but même du maire, c'est d'être élu pour accueillir de nouveaux habitants. Donc quand on essaie de lui expliquer que le schéma, c'est qu'il arrête d'accueillir de nouveaux habitants partout sur tout le territoire et qu'il faut densifier, eh ben, on a un problème, c'est que notre système politique, il n'est pas fait pour ça, tout simplement. Et je dis à un moment, il faudra avoir le courage de dire que ce n'est pas au niveau des maires que doit se décider l'urbanisme et la politique du logement. Et enfin, sauf que ce n'est pas ça qui s'annonce dans le REDEM, enfin, dans la réforme des collectivités non plus. Et que concrètement, voilà, un élu confronté au sujet, il me dit, je suis d'accord, mais moi, le virage à 80, il me dit, l'exemple, la phrase, c'est, il m'a dit, en gros, il faut que j'explique à des élus qu'il faut qu'ils tournent à 90 degrés très vite, alors que certains n'ont pas encore compris qu'il fallait qu'ils tournent, quoi. Voilà, c'est ça.
Il y a un géographe, on en parlait tout à l'heure à table, hein, un géographe qui s'appelle Jacques Lévy, qui disait « Osons le désert ». C'est-à-dire que pourquoi tous les territoires, quels qu'ils soient, auraient droit au développement?
Absolument.
C'est quoi cette espèce de droit au développement que nous avons collectivement constituée au nom de l'équivalence de tous les territoires. Enfin bon, peut-être que ce n'est pas à moi de répondre là-dessus.
Et inversement, renforçons un peu les arrêts des préfets quand une commune est à 2% de logements sociaux et qu'elle ne bouge pas, qu'elle préfère payer la pénalité qui se transforme en argument électoral. Hein, les
deux sont... Donc c'est à toi, hein, c'est à toi de répondre. Hein. Enfin,
Alors, il y a les deux.
Christina et Alain.
Moi, oui, alors. Je repense à la première. Alors, je sais que les maisons font des progrès considérables. Il y a une question de durabilité sur la maison à BBC, mais je sais qu'il y a des progrès considérables. Par contre, le ménage qui habitait une centrale, qui était mal logée et qui part à 20, 30, 40 km, quand le pétrole va être remonté à 150, 200, c'est ça qui va être le gouffre. Bon. La maison, les gens, quand ils achètent une maison individuelle, ont des comportements assez économes, les maisons progressent beaucoup, bien d'accord. Par contre, le transport en voiture, quand j'en vois les transports en commun, c'est vraiment le problème qui va être le plus lourd. Quant à la réévaluation du foncier, il a été décidé de ne pas réévaluer et de prendre les transactions quand elles arrivent pour les intégrer, de ne modifier la base de l'impôt que lorsque la transaction a lieu. Au moment du renouvellement. Alors, par ailleurs, il y a le projet de M. Blanc, qui voudrait trouver ses 35 milliards, parce que quelqu'un lui a susurré que ça allait générer tellement de plus-value qu'il suffisait de taxer cette plus-value pour financer. Quelques simulations ont été faites, c'est peanuts, et puis les marchés étant ce qu'ils sont, les comportements sont anticipés, donc ça n'est pas une idée crédible. Un, techniquement, ça n'est pas faisable, et deux, économiquement, ça rapporterait pas plus de 2 ou 3 pour 1000, supposé que ça se fait. Donc c'est pas une idée sérieuse. Il faut reprendre l'ensemble du système pour qu'on acclimate à Bercy l'expression « valeur vénale ». Quand vous dites valeur vénale ou prix de marché au ministère des Finances, on sent que c'est un propos, c'est une expression grossière. Mais bon. Alors, sur le SCOT de Caen, si vous voulez, ça amalgame deux choses. Alors, d'une part, un vrai travail de réflexion, de planification. La réaction des maires, elle est double ou triple. D'une part, il y a le maire qui ne supporte pas qu'on le prive de son pouvoir. Je le redisais au début, le maire, c'est son PLU, les PLU sont permis de construire, il le met en révision comme il faut, mais qu'on ne touche pas à ses pouvoirs. Ça, c'est une première chose. Vous savez que la règle des 15 km avait posé des problèmes terribles. Ne sous-estimons pas, autour des grandes agglos, le problème du maire malthusien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça rejoint ce que je disais sur l'article 55 de la loi SRU. Il y a des maires aux dernières élections qui ont fait des campagnes explicites sur le thème « Il n'y aura personne de plus chez nous ». Le maire du Rincy a fait campagne, je cite ce cas au hasard, alors qu'il est environné de communes à 30 ou 40% de logements sociaux, et il a fait sa campagne sur le thème « On ne bougera pas, on ne va pas faire ». Et le montant de la pénalité, c'est un truc qu'on ne sait pas. Ça, tout le monde dit « SRU, ça oblige les communes à construire au moins 20%. » Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Encore une fois, les arrêtés de carence par les préfets, il n'y en a presque pas. Et le montant de la taxe, c'est de l'ordre entre 10 et 30 euros par habitant. C'est le consentement à payer pour ne pas avoir de HLM dans sa commune. Faites un référendum, ça sera du même genre que le référendum suisse. Je suis sûr que les gens sont prêts dans beaucoup de communes, ils sont prêts à payer.
C'est comme un travailleur handicapé dans les entreprises.
Mais basiquement, c'est le permis de construire. Le bonheur d'un maire, il y en a deux. Il y a des maires parmi vous ?
Oui.
Il y a des maires. Il y a un des bonheurs, c'est le permis de construire. C'est le pouvoir sur le permis de construire. C'est vraiment l'expression importante, pour le meilleur ou pour le pire.
Alors Frédéric, tu n'es pas maire, hein, mais tu
non,
peux
Non, je
ne
suis pas maire, mais bon... Je suis maire et maire, Barbara Gould, etc.
Non, mais tu es quoi, au fond?
En fait, moi, je suis vice-présidente et je m'occupe de l'agglo, donc je fais de l'urbanisme commercial.
À
Brest. Voilà, à Brest. Et je me situe naturellement à la croisée des chemins entre les politiques sectorielles économiques et les politiques d'aménagement. Donc, je suis très intéressée parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le transversal. Donc justement, là, on est bien sûr... Je voulais juste apporter un témoignage par rapport au SCOT de Caen. Ça dépend du périmètre de la planification. Enfin, à quelle échelle est-ce qu'on pense cette planification? À Brest, on est en communauté urbaine depuis 1973. Donc la question du PLU, elle est communautaire depuis très très longtemps. Et donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxièmement, on a un PLH depuis très 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 longtemps. Et aujourd'hui, notre PLH, il est communes de terre, il est absolument plus contesté, parce qu'il y a une acculturation, c'est 20 ans de politique, hein, le PLH. 20 ans d'acculturation de tous les acteurs locaux.
PLH, tout le monde sait ce que c'est.
Plan local,
qui ne sait pas.
Programme local, Brest à la liste.
Programme local de l'habitat.
Programme local de l'habitat.
Ça dit qu'est-ce qu'on construit et où.
Qu'est-ce qu'on construit et où, mais c'est indépendant du plan local de l'urbanisme.
Voilà. Le nôtre est à l'échelle de la communauté urbaine, c'est-à-dire de l'agglo. Et aujourd'hui, comme on a quasiment un SCOT au bout du pays, alors je veux dire, Brest, c'est un peu particulier, c'est une presqu'île. Une presqu'île, ça veut dire une cohérence extrême du bassin de vie. Enfin, je veux dire, les gens, ils vivent, ils travaillent dans la presqu'île. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de penser la cohérence territoriale quand géographiquement on est obligé de le faire. En gros, ça a son importance. Donc en fait, et aujourd'hui ce PLH communautaire qui est un modèle, qui est aussi la preuve pour les maires qui n'en ont pas dans le pays de Brest ailleurs, que ça peut se faire, c'est la preuve vivante que ça fonctionne, qu'on produit du consensus et qu'on arrive à produire du logement. Aujourd'hui, on pense à l'étendre au niveau du pays, c'est-à-dire le SCOT, c'est une étape, derrière tout de suite, c'est PLH pays. Voilà. C'est ça la solution. Alors, entre-temps, il y aura peut-être des alternances électorales, etc., c'est toujours très fragile. Et aujourd'hui, pour l'agglo-brestoise notamment, le plus grand danger, c'est la réforme institutionnelle d'une part, et la réforme fiscale d'autre part qui va avec, qui aujourd'hui... que les bonnes pratiques qu'on met en œuvre depuis 20 ans, etc., et qu'on essaye de faire essaimer à un territoire plus large, on va se trouver rétrogradé. On va se retrouver peut-être en arrière. Et je suis absolument d'accord avec vous que l'enjeu de l'intervention de l'État dans ses politiques publiques locales, notamment celles qui concernent l'habitat, l'aménagement, etc., ce sont des enjeux d'obliger les acteurs locaux à s'organiser à la bonne échelle. Et de les obliger à être intelligents entre eux à la bonne échelle. Donc, d'avoir des périmètres de SCOT pertinents, des périmètres d'interco pertinents. Et là, le préfet, il serait beaucoup plus utile à faire ça qu'à organiser les déplacements des ministres et organiser les renseignements généraux sur le.
Et pardonnez-moi d'avoir parlé de Rennes et pas de Brest, parce que Brest est en effet un bon cas de planification au bon niveau.
Alors, il y a Philippe. Il n'est pas maire, et Antoine non
plus. J'ai élu à Saint-Nazaire, vice-président de la communauté d'agglomération nazérienne, et j'ai été membre du syndicat mixte du SCOT de Nantes, que vous semblez bien connaître, et donc je pense que c'est aussi sans doute un bon exemple. Moi, la question, c'est comment est-ce qu'on peut concilier ce que tu disais, Philippe, le droit au désert, avec ce qu'on a défendu, et ce que je défends en tout cas toujours, c'est le droit à la décentralisation et donc le droit à la démocratie, c'est-à-dire de concevoir que les citoyens sont en capacité aujourd'hui de définir ce qui est bien pour eux sur leur territoire. Et quand on discute avec des élus qui ont vécu la toute-puissance de l'État, donc qui ont vécu ces deux systèmes, notre génération d'élus n'a vécu qu'après la décentralisation, ces mêmes élus, aujourd'hui retraités, nous font part effectivement du poids qu'ils ont eu à supporter de la part de l'État dans la définition de ces choses. Alors, sans doute qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Et si je prends l'exemple de Nantes, c'est un bon exemple, puisque le SCOT métropolitain couvre la ville de Nantes et de Saint-Nazaire, et puis des espaces semi-ruraux intermédiaires entre les deux. Mais la différence, c'est que Nantes, agglomération, a la compétence urbaine, puisqu'elle est communauté urbaine. Comme Lyon, alors que toutes, évidemment, les autres communes, y compris à Saint-Nazaire, nous n'avons pas cette compétence avec. Effectivement, par exemple, actuellement, au titre du Conseil général, François a passé une diapositive sur la protection des périmètres agricoles périurbains, ce qu'on appelle les PEAN. Moi, je travaille au niveau du département du Conseil général sur un périmètre de 19 000 hectares, entre le nord-ouest de l'agglomération nantaise. Aucun ne s'est constitué encore en France, alors que la loi date de 2005. Donc nous travaillons sur un périmètre de 19 000 hectares. Alors, la négociation avec la communauté urbaine a été difficile à faire entendre, mais une fois que la décision est prise, c'est facile. Alors que l'autre partie du territoire, il faut que je négocie avec une vingtaine de maires. Et donc, c'est soumis effectivement à l'approbation de chacun de ces maires, même si la communauté de communes a donné son accord. Donc je crois qu'effectivement, la question se pose. Mais moi, je pense qu'il faut aussi éviter les caricatures. J'entends dans votre discours, effectivement, sans doute, la décentralisation et la démocratie a fait que c'est variable selon le territoire. Voilà, c'est aussi une des conséquences. Et que sur certains territoires, dont je fais, où j'habite, ces préoccupations-là, depuis très longtemps, et qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, y compris des maires des communes rurales, qui ont bien mesuré les limites de l'exercice, parce qu'aujourd'hui, effectivement, cet étalement urbain est un fait, et donc il faut le prendre. Mais je crois qu'il y a une véritable prise de conscience. Alors, sans doute que le temps de la démocratie est sans doute plus long que celui de la décision centrale. Peut-être qu'il y a des choses irréversibles, mais moi, je fais confiance aussi aux élus locaux pour rechercher des pistes, et François, finalement, nous a fait cette démonstration d'une intelligence collective pour rechercher des pistes, que ce soit sur les modes de concentration urbaine, sur les pôles de concentration, sur les moyens de transport, et aussi, parce que nous y travaillons, sur le déplacement des zones de travail. Parce que peut-être aussi faut-il penser à rapprocher les lieux d'exercice professionnel des lieux d'habitat qui sont dispersés. Donc, il y a plusieurs pistes.
Alors, encore une... Antoine, oui, tu...
Oui, témoignage d'un maire, justement. Je suis maire en milieu rural. Ce que je voulais prolonger, ce que disait Philippe, qui est aussi un élu, c'est dire que le problème que vous soulevez est un problème lié à ce qu'on peut dire à la décentralisation, mais au-delà de ça, un problème de pouvoir local qui pose la question de la cohérence entre l'exigence démocratique locale et la notion d'intérêt général. Pour autant que l'on puisse définir ce qu'est l'intérêt général, parce que l'intérêt général, vu de l'habitant d'une commune ou du maire d'une commune, peut être différent, notamment dans les formes urbaines ou dans les exigences énergétiques, etc., que l'intérêt général d'un administrateur à Bercy ou au ministère de l'Équipement à Paris. Donc, cette cohérence-là entre intérêt général et exigence démocratique liée au pouvoir local du maire, donc le degré de suffrage universel, est une vraie question liée à la décentralisation et sans doute déterminera les limites demain de la décentralisation. Et on le vit ça en tant que maire. Alors, pour parler de l'urbanisme en particulier, par rapport à cette notion plus générale, la question pour un maire n'est pas tant au moment de la délivrance. Un maire n'est pas à dire non. Il est élu, tout élu. Cependant, il a quand même des parades ou des garde-fous. Le premier, c'est que lorsqu'il doit délivrer une autorisation de construire, basiquement un permis de construire, on va dire, bah d'abord, il y a des services instructeurs, sur le plan technique, qui lui donnent des avis auxquels il ne peut pas déroger, sauf à ce que, effectivement, les avis soient iconoclastes. La deuxième chose, et c'est sans doute là la plus grande difficulté du maire, ce n'est pas tant de donner des autorisations de construire, des permis de construire, c'est de déterminer ce qui va déterminer les autorisations de construire, c'est-à-dire les documents d'urbanisme, que ce soit les cartes communales en milieu rural ou des PLU en milieu urbain. Et c'est là que la pression politique sur les maires est très forte. Et c'est sans doute là que le bas blesse, parce qu'une fois que le document d'urbanisme est établi, et ben, ensuite la délivrance du permis, j'allais dire, à quelque chose près, c'est une application, la mise en application de ce document d'urbanisme. Mais c'est au moment de l'élaboration, de la révision de ce document d'urbanisme que la pression est très forte. Et effectivement, là, je crois que le maire, enfin le camp de l'élu, doit être fortement accompagné, et j'allais même dire protégé, entre guillemets, si vous voulez bien comprendre là-dessus, protégé par les administrations de l'État, qui, elles, je dirais, sont plus détachées vis-à-vis de la population.
Est-ce que c'est l'État ou...
Et donc, politiquement, je dirais que c'est plus acceptable, en tout cas, ça passe mieux, même si le maire, lui aussi, doit aussi représenter l'intérêt et les besoins exprimés par la population. Donc il y a là, effectivement, un équilibre à la fois démocratique et d'intérêt général à respecter, et je crois que c'est dans cet équilibre élu-administration que l'on peut le trouver.
Merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou question avant que Vincent ramasse les cartes et quitte la table de jeu?
Je voulais juste introduire la question du droit d'urbanisme. Donc on a compris que l'agglomération brestoise s'est dotée depuis longtemps de plus très vertueux, modalités d'élaboration très complexes, longues, vertueuses, et que ça, qu'un PADD formidable. Et puis il y a des gens là, au moment où on a adopté le nouveau PLU en 2006, il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que justement on a, selon les principes vertueux du développement durable, on a dit ça suffit, l'urbanisation n'importe comment, etc., c'est un bon flux. Et des gens qui se sont sentis spoliés. Donc ils ont attaqué. Ils ont attaqué le PLU. Et notre PLU, il y a 3 semaines, est tombé. Il n'est pas tombé sur le fond, il est tombé sur un moyen d'égalité externe qui est la délibération de qui a pris, enfin, qui a n'était pas accompagnée d'une note de synthèse adéquate. Fermez-en, crac. Donc voilà, donc là, on passe d'une société organisée par le droit à une société d'inertie par le droit. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la politique des agglos se fait dans le bureau du juge administratif. Et ça, c'est un énorme problème.
Alors, par dérogation exceptionnelle, donc... À la suite de Frédéric, Henri et Josiane, mais vraiment une demi-seconde chacun.
Tu diras Alain.
Alain, pardon, excuse-moi. Je vais regarder Henri et je pensais à Alain.
Oui, juste avant que vous ne partiez, je voulais juste un petit point, et Christina l'a dit, tant que je ne me suis pas exprimé, sur la partie Alain Biraud, Lafarge. Donc sur la partie bâtiment-construction. Vous avez parlé des maisons individuelles qui risquaient d'être des passoires thermiques.
Il y en a, oui.
Il y en a. Mais a priori, et ça je confirme ce que disait Christina, il est possible déjà de faire de la maison individuelle, même BBC, à des coûts...
Oui, la Farge a fait des progrès impressionnants.
je le souhaite, je ne dis pas... Je pense que j'ai quelquefois un ton de dérision.
Non, mais il y a des études, c'est pas la Farge, c'est l'ensemble d'une façon pluridisciplinaire, comme le disait Frédéric, puisque là on a travaillé évidemment avec les concepteurs, les bureaux d'études, et les matériaux, ce n'est qu'une petite part, il y a aussi des équipements. Donc il est possible, à mon avis, de faire la maison pour le primo-accédant, qui ne soit pas une passoire thermique. Et ensuite, vous parlez des tours et la difficulté d'en faire, par contre, des logements BBC au niveau de la tour, je pense que vous avez raison. Mais... Donc la raison est au milieu, non? Parce que malgré tout, un Airbus 4, un plus 7...
Ni pavillon, ni tour, alors c'est quoi?
Un plus 4, un plus 7, c'est quand même performant énergétiquement.
On sait très bien faire un mixage, puis les petits vieux de ma génération, ils vont vouloir revenir vers les centres, etc.
Bien sûr.
Flexible. Ce qui est critiquable sur tous les plans, c'est la maison... mal construite à 8000 euros, qui va coûter très cher et en chauffage et en transport, et répartie absolument au hasard, encore une fois, des croque-morts et des syndicats de faillite, ça, c'est mauvais. L'autre chose, c'est la grande hauteur, parce qu'elle ne résoudra absolument pas le problème de la densité, et elle coûtera assez cher en kilowattheure. C'est les deux seuls points. Sur le reste, offrons la diversité, mais commençons par résoudre le problème foncier. Ce qui me permet de l'atteindre.
Josiane, voilà, une seconde, et puis voilà, tu ramasses tout, il te reste 5 minutes avant de partir dans ton contrat avec les dates.
Une seconde, c'est bref, juste pour introduire l'idée qu'il y a aussi des territoires différents avec des pressions démographiques différentes. Ce qui est quand même fondamental en matière de formes urbaines, des pressions démographiques avec un grand sens démographique, un afflux touristique, etc., etc. Et que donc, on peut difficilement, me semble-t-il, avoir une réponse unilatérale.
La différence, c'est l'esprit.
Stop.
Totalement d'accord. C'est le premier point que j'avais noté, l'extraordinaire diversité des territoires. Et les défiscalisations dont je parlais, il y en a beaucoup qui se sont produites dans les zones détendues. Il y a en France beaucoup de zones détendues dans lesquelles il y a un taux de vacances, même dans les ensembles HLM, important. Donc on parle quelquefois de réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça, le problème, c'est qu'on reste quand même sans pas beaucoup d'intermédiaires entre l'État et la commune pour les choses dont on parle. Ça, c'est une vraie difficulté. Moi, je serais spontanément assez régionaliste. Et pour en venir... Mais il y a du chemin à faire.
Mais pour en venir aussi sur le point du rôle des élus, parce que j'ai peut-être été maladroit ou trop brutal, je crois qu'il y a un véritable problème de protéger l'élu. À quel niveau? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un système de type régional avec des lois régionales, qu'il y ait une loi d'urbanisme Côte d'Azur, une loi d'urbanisme des Alpes. Ça me paraîtrait plus intéressant que de rester sur ce droit centralisé. Mais au-delà de ça, c'est mission impossible pour le maire, parce que le caractère constructible d'un terrain va multiplier sa valeur par 20, 50, 100. Et donc, c'est mission impossible, parce que nous n'avons pas les mécanismes fiscaux ou de péréquation. Oh, j'ai écrit des trucs là-dessus, des revues, des bouquins, sur le fait qu'on a absolument besoin d'un mécanisme qui neutralise l'effet des règles d'urbanisme sur les valeurs foncières. Ça, si on n'a pas ça, et alors ça existe en Angleterre, en Allemagne, enfin, je ne vais pas démarrer là-dessus, sinon le maire ne peut pas résister, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que tant de nos PLU sont en révision ou en modification, car c'est tout de même si difficile à gérer que la plupart des PLU sont en révision ou en modification, parce que ça n'est guère possible autrement. Alors, le cœur du problème, on le voit et vous l'avez très bien souligné, c'est le périmètre de l'autorité d'urbanisme est directement lié, évidemment, au pouvoir d'octroyer le permis de construire. Alors, dire « il faut retirer le permis de construire au maire », c'est politiquement ingérable. J'indique quand même le système britannique qui est assez intéressant. D'abord, celui qui délivre le permis, le chief planner, c'est toujours au niveau de l'agglo. Et c'est sous sa responsabilité. Et il s'engage. Il y a un vrai code de déontologie. C'est pas le maire, parce que le maire, il va être soumis à élection. C'est quelqu'un qui est indépendant, autonome, qui a une forte autorité. Évidemment, s'il s'entend mal avec le maire, eh ben, on va changer. Mais fondamentalement, c'est lui. Et si le promoteur estime qu'on lui a fait un sale coup, il écrit au ministre, et il y a une procédure. Et si c'est un gros permis, eh bien, on envoie un inspecteur du ministère pour aller regarder. Et le chief planner qui aurait fait un permis un peu scélérat ou qui aurait refusé un truc qui s'imposait, eh ben, il est mal dans ses souliers si la décision est corrigée. Donc il y a une espèce de soupape de sécurité qui protège. Et puis, sur un dernier point qui est politique. J'ai une curiosité malsaine, je vais parfois au Parlement écouter des débats. Et je suis très frappé du problème du cumul des mandats et de la différence de discours qui peut être tenu par un élu dans sa commune et du discours qui est tenu à la tribune de l'Assemblée nationale. Pardonnez-moi, mais certains des défauts de notre droit qui en présentent d'autres, c'est celui-là. Et par ailleurs, notre droit est devenu si complexe. Le Code de l'urbanisme fait 1100 pages. Le Code de la construction et de l'habitation en fait 1400. Si on y ajoute le Code des communes, le Code de l'environnement, etc., etc., on vit sur un volcan. Je connais bien un avocat à Paris, celui qui a obtenu la première annulation de Paris-Rive-Gauche, qui me dit « il n'y a pas un permis de construire important qui résiste à un bon avocat ». On est donc sur un volcan. Si les Français se servaient du droit, ce serait la paralysie totale et immédiate. Heureusement, les Français ne le savent pas. Les bons avocats, c'est cher, c'est compliqué, c'est intimide. Si les Français servaient du droit comme les États-Unis, tout est paralysé immédiatement. Donc il y a une vraie difficulté. Je sais que le gouvernement a annoncé qu'il allait tout simplifier par ordonnance. Les annonces de simplification suscitent en général quelques craintes. Législateur, à vous de jouer.
Je pense que cette conclusion confirme complètement les étonnements des journalistes anglo-saxons dans The Economist quand ils regardent la France, parce qu'ils se disent « la France, sur le papier, ça ne peut pas marcher ». Ça ne peut pas marcher, effectivement. Tu confirmes ça. Et pourtant, ça marche. Bon. Alors, la question, moi, il me semble que c'est ça la question qu'il faut qu'on explore aussi, c'est les types d'arrangements et d'accords de relations informelles et de bricolage, etc., qui ne sont pas forcément illégaux ni souterrains d'ailleurs, qui sont dans l'ordre, comme disait la sociologie des organisations, de la régulation croisée, qui permettent que malgré l'État, malgré la législation, malgré les institutions, ça tourne quand même.
Un dernier mot pour messieurs les élus, il y a un de vos collègues qui a connu la paille humide des cachots.
C'est un gros promoteur anglais, les Waterloo Houses, ça ne s'invente pas, qui a développé des opérations en France et qui avait trouvé un conseil municipal d'un gros bourg où il acceptait que ses chargés de mission viennent passer un samedi entier avec le maire, l'adjoint chargé de l'urbanisme, l'adjoint des finances, pour expliquer comment on négociait un permis de construire en France, comment on appliquait le L332 6e alinéa, etc., etc. Et on a pensé, le juge a pensé que c'était pas très correct quand un promoteur français local a découvert le poteau rose. Je ne dirais pas où c'est. Bien, merci beaucoup, Vincent Renard.